des archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Et la Gouda, c'est tout d'abord la rencontre. La rencontre que on a toujours appelé la rencontre des deux mondes, mais moi, que j'ai défini comme la rencontre de trois mondes. C'est-à-dire les bateaux venant de Nantes, s'arrêtant ici, prenant les esclaves et continuant sur l'Amérique.
Vous avez les Agoudas du Bénin. Vous avez les Agoudas du Togo. Vous avez les Agoudas du Nigeria. Géographiquement. Historiquement, il y a eu plusieurs vagues. Parce qu'il s'agit d'anciens esclaves affranchis qui sont venus par vagues successives. Et vous avez des Agoudas chrétiens et vous avez aussi des Agoudas musulmans.
Ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
Quelques milliers de ces Noirs sont revenus du Brésil après l'abolition de la traite négrière. Il s'agissait pour beaucoup de ces affranchis de retrouver la terre de leurs ancêtres. L'Afrique mythique sur laquelle ils devaient être enfin des hommes libres, à part entière.
Lorsque les premiers sont arrivés, on les aurait emprisonnés en Afrique à leur retour. Parce qu'ils n'étaient pas acceptés au départ.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Agouda du Bénin. Les affranchis qui débarquent ont un réel avantage sur le reste de la population autochtone. Ils ont appris des métiers. Ce sont essentiellement des ouvriers spécialisés dans les domaines de la production des biens, de la construction, de la menuiserie et de l'agriculture.
En agriculture, c'était des vaillants cultivateurs.
Karim Urbain da Silva, président du Conseil des Sages de la ville de Porto Novo.
Ce sont les meilleurs charpentiers, comment dit-on, artisans, maçons. D'abord, quand la France, après la colonisation, la France s'est servie d'eux. La France n'a pas amené d'ouvriers ici, du tout. Ce sont les Agoudas, les ouvriers Agoudas, qui ont conçu, par exemple, les vieilles maisons françaises que vous voyez à côté.
La grande majorité des corps de métier au Dahomey.
Professeur Aminu Taofiki, ancien vice-recteur de l'Université nationale d'Abomey-Calavi.
Étaient tenus par des Agoudas. Le menuisier, le maçon, le électricien, le mécanicien, etc. Même le barbier, parce qu'il y a une famille toute proche de Paraíso qui s'appelle Bambero. Donc c'est le barbier, je crois bien, en portugais ou en espagnol. Bon, mais tout le monde ne comprend pas, donc cette famille-là, bon, elle s'appelle Bambero, puis c'est tout.
Un réel avantage dans cette zone où les Brésiliens négriers établis sur la côte n'étaient pour l'essentiel que des commerçants. Et très rapidement, ils vont mettre sur pied une organisation sociale et culturelle qui va à la fois les distinguer, mais également leur donner leur place dans le pays qu'ils ont choisi.
Je ne pense pas que ce soit aussi élaboré que ça.
Jérôme Carlos, membre de la communauté Agouda.
Que les gens aient eu cette démarche bien élaborée que tu proposes. Les gens ont été plutôt, je dirais, victimes d'une sorte de jouissance de pouvoir. On est arrivé, on a quelque chose à montrer, on a quelque chose à démontrer pour dire nos frères-là sont inférieurs. Nous sommes les nouveaux maîtres. Nous avons des privilèges qu'ils n'ont pas et que nous devons garder coûte que coûte. Nous devons affirmer une nouvelle identité. Donc c'est la jouissance du pouvoir. J'y vois davantage quelque chose qui s'est cristallisé autour de la notion de pouvoir. On a le pouvoir et on l'exerce, tout simplement. Et on oublie tout ce que nous voyons aujourd'hui comme phénomène avec les Antillais. On nous a vendu. Non, dès lors qu'ils ont fait le voyage du retour, on ne nous a plus vendu. Nous avons vaincu la fatalité, en quelque sorte.
Une communauté à part entière qui vit à proximité des descendants, des bourreaux de leurs ancêtres, juste à côté du petit chemin et de la place du non-retour par lesquels leurs parents ont été déportés.
Mais attention! Ils ont vécu avec les Blancs.
Karim Urbain da Silva, membre influent de la communauté Agouda, fondateur du musée da Silva à Porto Novo.
Ils ont copié les habitudes et les mœurs des Blancs. Ils se prenaient pour les supérieurs quand ils ont venu trouver leurs frères ici.
Ils reviennent du Brésil comme esclave affranchi.
Jérôme Carlos.
Ayant gardé le nom du maître qui l'a affranchi, par reconnaissance. Donc on gère un patrimoine de noms, de patronymes, à partir de cette libération des esclaves.
La famille de Souza était heureuse.
Francisca de Medeiros Patterson, petite fille de Francisco de Souza, membre importante de la communauté Aguda.
D'accueillir ceux qui, après l'abolition de l'esclavage, ceux qui sont revenus, la famille de Souza les a accueillis et les a aidés à se réinstaller, que ce soit à Anécho, que ce soit à Agué, que ce soit à Ouida.
Quand ils revenaient...
Nourini Tidjani Serpos, ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO.
Ceux qui revenaient n'étaient pas considérés et ils ne se considéraient pas comme d'anciens esclaves.
Ils sont arrivés sans aucun complexe.
Francisca de Medeiros Patterson.
Et ceux qui étaient restés ici, qui étaient venus, qui ont été des esclavagistes, les ont accueillis à bras ouverts. Puisque, en somme, ils faisaient une population qui ne fait que évoluer, faire évoluer les familles et apprendre à travailler à ceux qui sont restés ici sans aller au Brésil ni en Amérique.
Leurs ancêtres arrivaient de différentes régions, d'ethnies diverses. Ils étaient enlevés dans des contrées intérieures. Et pourtant, plusieurs siècles après, ils constituent une seule communauté, un seul peuple intégré dans une région où ils se sont fait une place à leur retour sur le continent, les Aguda. Retournés vivre sur la terre de leurs ancêtres, on les rencontre dans toutes les classes sociales. Ils sont tantôt catholiques, tantôt musulmans. Nombre d'entre eux sont des descendants de négriers, des commerçants brésiliens ou portugais établis sur cette côte.
Notre ancêtre faisait...
Théophile Gomes, membre de la communauté Aguda.
Et le Portugal, le Brésil, l'Afrique et vice-versa. Et définitivement, il s'est installé ici.
Mon grand-père, il a quitté le Brésil.
Auguste Amaral, membre de la communauté Aguda de Porto Novo.
C'est un commerçant, n'est pas parti dans l'esclavage. Il a quitté le Brésil pour l'Est d'Aomé. Il est venu faire le commerce ici. Il vendait des masques, des bijoux.
Luis Ilvado Villafan Gomes Santos, ambassadeur du Brésil au Bénin.
J'ai même trouvé quelques cousins ici, Gomes et Santos.
Mais les plus nombreux sont les retornados, les descendants d'esclaves revenus du Brésil, notamment à la faveur de l'abolition de la traite négrière.
Tous ne sont pas revenus du Brésil.
Théophile Gomes, membre de la communauté Aguda.
Et tous n'ont pas été, disons, colonisés par... le Portugal ou le Brésil, si le Brésil avait une colonie. Il y avait les forts anglais, le fort Williams, qui est là encore. Il y avait le fort danois, qui est tout proche de ma maison ici. Il y avait le fort portugais, le fort ainsi de suite. Donc tous ne sont pas de la même origine. Et les Johnson, les Aquesson, les Adjavon et autres dépendent plus des anglais, des anglophones que les Portugais ou bien
les
hispaphones ou les Français. Les Français aussi avaient leur fort. Et d'ailleurs, c'est le seul fort qui n'a pas résisté parce que cela a été carrément détruit avant le départ des Français.
Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi parmi ces Aguda ceux dont les aïeux étaient économiquement ou socialement liés à la culture dite brésilienne et qui ont été absorbés par leur mode de vie.
En réalité, nous sommes les ressortissants du Nigeria.
Hassani Bourema, islamologue à la mosquée centrale de Ouida.
Nous venons du Nigeria, de Oyo. Bon, c'est notre papa, nos aïeux qui sont ici, qui sont venus ici à Ouida, s'installer ici à Ouida. Notre grand-papa s'appelle Adjani Aladjaniban.
Vous avez des enfants qui ont grandi dans les familles brésiliennes, afro-brésiliennes.
Jérôme Carlos, journaliste.
Et sur le long terme, prennent le nom de ceux chez qui ils sont restés. C'est-à-dire, vous avez au premier degré ceux qui ont été affranchis et qui ont gardé le nom de leurs anciens maîtres. Et vous avez ceux qui ont vécu avec les anciens affranchis et qui ont fini par garder le nom de ces derniers, en quelque sorte. Il y a comme une sorte de passage de témoins.
Il faut dire que cette position d'Aguda procure des avantages certains. Ces patronymes facilitent, entre autres, le contact avec les commerçants et les négociants européens.
Notre nom Original, c'est Adagundo.
Gilbert Montero.
Adagundo, Ayo d'abord. Ça, c'est notre nom d'origine. Donc, plus tard, avec ses amitiés avec M. Montero, il a dû prendre ce nom pour faciliter les échanges. Parce qu'il avait intérêt à collaborer et à prendre le nom de celui-là qui avait insisté pour qu'ils ne perdent pas ses avantages dans les échanges qu'ils avaient.
Le groupe le plus important est justement celui des descendants d'anciens esclaves qui, à leur tour, ont rapporté du Brésil, en plus du patrimoine culturel acquis, les patronymes d'origine portugaise attribués par leurs anciens propriétaires.
Tous ceux qui portent des noms.
Karim Urbain da Silva, membre influent de la communauté Aguda.
À résonance de deux composantes, de Douda, da Silva, d'Origo, do Santos, sont souvent les arrière-petits-fils de négriers, mais de véritables négriers. Par contre, les esclaves portent souvent des prénoms. C'est souvent, ils portent le prénom de leur propriétaire ou d'autres sont baptisés, on leur a donné des noms. Ce sont ces noms-là qu'une fois arrivés ici, sont devenus ces prénoms-là sont devenus des noms de famille. Olympio, par exemple, ou Antonio, c'est Antoine. Quand ils ont cet Antoine-là, quand il est revenu ici, il a fondé sa famille. Et le nom de famille est devenu aujourd'hui Antonio, Olympio, Paraíso, da Silva, d'Almeida, d'Orego. Ce sont les négriers qui sont venus s'installer et qui ont eu des enfants.
Dans cette famille des Aguda, il y a un autre groupe. Celui des descendants de Français, d'Anglais ou d'Espagnols, qui pris dans la dynamique sociale et la culture brésilienne dominante à l'époque, ont brésilianisé leur nom de famille. Nom d'emprunt qui s'est également transmis à leurs esclaves. Ainsi, la famille d'Olivier de Montaguer, ancien commandant du fort de Huida, est devenue d'Oliveira.
D'Oliveira.
Professeur Honorat Agessi, sociologue et directeur fondateur de l'Institut de développement et d'échanges endogènes.
Ah, lui vient de la France, Olivier de Montaguer. Bon, on voit pourquoi il est installé tout juste au fort français, à quelques 100 mètres du fort français. Bon, Olivier de Montaguer. Bon, mais avec vraiment et les valeurs qui prévalaient, avec les rapports avec les Aguda, mais ce qui devait l'emporter dans sa famille, c'était la transformation en d'Oliveira, d'Oliveira, et c'est ça. Donc on a laissé de Montaguer, Olivier de Montaguer, mais pour faire prévaloir d'Oliveira.
En somme, cette communauté Aguda réunit en son sein presque autant de descendants de négriers que de descendants d'esclaves.
Bon, disons que géographiquement, vous avez les Aguda du Bénin.
Jérôme Carlos.
Vous avez les Aguda du Togo. Vous avez les Aguda du Nigeria, géographiquement. Historiquement, il y a eu plusieurs vagues. Parce qu'il s'agit d'anciens esclaves affranchis qui sont venus par vagues successives. Et vous avez des Aguda chrétiens. Et vous avez aussi des Aguda musulmans, comme les Da Silva, certains Da Silva, certains Paraíso, etc., etc.
Il serait idyllique de penser que ce mélange est totalement harmonieux. Il y est tout de même encore question de différence entre les vrais Aguda, qui auraient du semblant dans les veines, et les autres qui sont tout simplement des esclaves et des affranchis. Ainsi, la ligne de fracture entre maître et esclave qui marquait la société brésilienne s'est reportée en Afrique, mais de façon moins prégnante.
On n'a pas hésité à accepter ou à donner la main des enfants à ceux qui sont revenus.
Francisca de Medeiros Patterson.
Comme je vous le disais tout à l'heure, ils étaient revenus avec une certaine éducation, une certaine évolution et une certaine technologie je ne peux pas dire qu'ils étaient à part entière avec leur patron d'hier, mais quand même, ils sont revenus pour pouvoir démontrer ce qu'ils ont pu acquérir. Ils sont revenus avec leurs enfants aussi, qui sont nés au Brésil ou ailleurs. Donc, les enfants ont pu acquérir une éducation, une civilisation, je peux dire. Donc, on n'hésitait pas à accorder la main des enfants de ces familles qui sont restées ici à ceux qui sont revenus.
Professeur Noureni Tijani Zerpos, ancien ambassadeur du Bénin à l'UNESCO.
Il n'était pas prévu qu'il y aurait des Aguda, c'est-à-dire des gens qui sont partis, qui vont revenir plus tard et qui vont dire où est notre source, où est nous voulons notre identité. Mais eux, ils avaient déjà acquis là-bas une autre identité. Et c'est ça qui va être une richesse exceptionnelle.
L'origine, la religion et la langue sont traditionnellement les principaux éléments d'ancrage de la constitution d'un groupe ethnique. Dans une société où l'on se définit par son appartenance à telle ou telle ethnie, à telle ou telle famille, où on se définit d'abord comme le fils d'un tel, marié à un tel, originaire de tel village, sujet de tel roi, l'agouda ne cadre pas vraiment puisqu'il a perdu tout lien familial et socio-africain avec l'esclavage. Il n'est plus qu'une sorte d'Africain générique. Il se trouve donc détaché de la structure sociale autochtone. Il va alors construire son identité à partir de sa différence, en mettant en valeur sa singularité.
Ce qui sont revenus.
Jérôme Carlos, membre de la communauté Agouda.
Ils n'ont pas de réelles racines au Brésil. Il n'y a pas de racines. C'est des esclaves. Et le mélange s'est opéré. Et choisir de revenir au Bénin ou d'aller vers l'Angola, il y a très peu d'indices pour guider. La boussole elle-même, ça a été, je crois, fait au petit bonheur la chance.
En réalité, les anciens esclaves, en arrivant sur le continent, perçoivent les autochtones un peu comme des sauvages. De leur côté, avec leur style, leur tenue, leurs vêtements, leur manière de vivre, ils sont vus par les locaux comme des esclaves qui miment les manières de blancs.
Ces gens,
roi d'Agbo ou non, Ouna II, chef suprême du Vaudou.
Dans la rencontre de ces deux cultures, de ces deux fois, il y a eu ce que nous pouvons appeler, en certains termes, bon, peut-être le métissage et autres. Ça veut dire que leur retour ici, ils doivent apporter quelque chose qui n'est plus authentiquement parti d'ici.
Il faut dire que ces anciens esclaves d'origine diverse au départ n'ont plus la plupart en commun que le fait d'avoir vécu au Brésil, de partager le portugais et de se dire majoritairement catholiques. C'est donc avec les Blancs, en l'occurrence les Brésiliens établis depuis longtemps sur la côte, qu'ils vont lier des alliances. Ils se sentent plus proches. Ainsi, les affranchis vont faire alliance avec les négriers, avec ceux qui ont vendu leurs parents.
Il y avait des liens de linguistiques.
Francisca de Medeiros Patterson.
Qui les unissait. Et ensuite, une civilisation qu'ils avaient pu acquérir au Brésil. Et c'était de bons travailleurs qu'il fallait aider sans tenir compte de leur passé. Et c'est des gens dignes. Ils sont revenus avec une certaine éducation, une distinction qui était louable. Et puis, surtout, une formation. Une formation en ce sens qu'on ne pouvait plus les prendre comme des anciens esclaves, mais comme des gens qui ont évolué énormément. Et c'est ainsi que, dans la famille de Souza, on les a aidés à acquérir des terres, évidemment à acquérir des terres avec l'intervention de cette famille, de ma famille de Souza, auprès du roi d'alors d'Abomey.
Il y a eu comme une sorte d'amnésie.
Jérôme Carlos.
Des êtres inférieurs, quand ils étaient à leur point de chute, quand ils ont été enlevés d'ici, ils étaient des êtres, ils n'étaient même pas des êtres. C'était des choses, c'était des objets. Mais ils ont acquis un statut d'être à partir de l'instant où ils ont été libérés. Mais être libéré a signifié pour beaucoup avoir un nouveau statut d'homme, d'être supérieur, égal même, par ailleurs, à celui de l'ancien négrier. Donc, il n'y avait pas tellement de peine à passer de l'ancien statut à un nouveau statut.
Maintenant que le cours de l'histoire les a rapprochés, qu'ils vivent les uns à côté des autres, quel est le type de rapport qui va s'établir entre les affranchis revenus en Afrique et les négriers installés sur la côte? Vengeance ou pardon? Quel rapport ces retornados, comme on les appelle, vont-ils avoir avec les autochtones? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Agouda du Bénin. Juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve juste après.
Les archives d'Afrique.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
quand l'esclavage a été totalement aboli, on a dit, bon, vous allez revenir vers l'Afrique, le Libéria et tout ça. Ils vont s'installer le long de la côte, le Nigeria, ils vont s'installer au Bénin, ils vont s'installer au Togo, au Ghana, etc.
Dès lors qu'ils ont fait le voyage du retour, on ne nous a plus vendu. Nous avons vaincu la fatalité, en quelque sorte.
Parce que là-bas, ils ont appris des métiers. Ils étaient tonneliers, ils étaient maçons, ils étaient charpentiers. Et c'est une nouvelle forme de bourgeoisie qui va s'installer.
Par milliers, ils étaient partis, les chaînes aux pieds et au cou. Arrachés à leur terre et vendus aux États-Unis d'Amérique, aux Antilles, au Brésil et dans tout le Nouveau Monde, comme de vulgaires marchandises. À la faveur de l'abolition de la traite négrière au Brésil, certains d'entre eux ont choisi de retourner sur la terre de leurs ancêtres, en Afrique. Et c'est sur les côtes, notamment du golfe du Bénin, non loin de ce que l'on a appelé la porte du non-retour, qu'ils se sont installés, très souvent à côté des négriers qui les avaient vendus, de ceux qui avaient fait d'eux des objets, des marchandises. Une relation singulière qui va fortement influencer le visage de toute la sous-région, les Agoudas. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Agouda du Bénin. Professeur Nourini Tidiani Serpos, ex-président du conseil exécutif de l'UNESCO.
Il n'était pas prévu qu'il y aurait des Agoudas, c'est-à-dire des gens qui sont partis, qui vont revenir plus tard et qui vont dire où est notre source, où est notre, nous voulons notre identité. Mais eux, ils avaient déjà acquis là-bas une autre identité. Et c'est ça qui va être une richesse exceptionnelle.
L'origine, la religion et la langue sont traditionnellement les principaux éléments d'ancrage de la constitution d'un groupe ethnique. Dans une société où l'on se définit par son appartenance à telle ou telle ethnie, à telle ou telle famille, où on se définit d'abord comme le fils d'un tel, marié à un tel, originaire de tel village, sujet de tel roi, l'Agouda ne cadre pas vraiment puisqu'il a perdu tout lien familial et socio-africain avec l'esclavage. Il n'est plus qu'une sorte d'Africain générique. Il se trouve donc détaché de la structure sociale autochtone. Il va alors construire son identité à partir de sa différence, en mettant en valeur sa singularité.
Ceux qui sont revenus...
Jérôme Carlos, membre de la communauté Agouda.
N'ont pas de réelles racines au Brésil. Il n'y a pas de racines. C'est des esclaves. Et le mélange s'est opéré. Et choisir de revenir au Bénin ou d'aller vers l'Angola, il y a très peu d'indices pour guider. La boussole elle-même, hein, ça a été, je crois, fait au petit bonheur la chance.
En réalité, les anciens esclaves, en arrivant sur le continent, perçoivent les autochtones un peu comme des sauvages. De leur côté, avec leur style, leur tenue, leurs vêtements, leur manière de vivre, ils sont vus par les locaux comme des esclaves qui miment les manières de blancs.
Ces gens...
Roi Dagbo Ounon Ouna II, chef suprême du Vaudon.
Dans la rencontre de ces deux cultures, de ces deux fois, il y a eu ce que nous pouvons appeler, en certains termes, bon, peut-être le métissage et autres. Ça veut dire que leur retour ici, ils doivent apporter quelque chose qui n'est plus authentiquement parti d'ici.
Il faut dire que ces anciens esclaves d'origine diverse au départ n'ont pour la plupart en commun que le fait d'avoir vécu au Brésil, de partager le portugais et de se dire majoritairement catholiques. C'est donc avec les Blancs, en l'occurrence des Brésiliens établis depuis longtemps sur la côte, qu'ils vont lier des alliances. Ils se sentent plus proches. Ainsi, les affranchis vont faire alliance avec les négriers, avec ceux qui ont vendu leurs parents.
Il y avait des liens de linguistiques qui les unissaient.
Francisco de Medeiros Patterson, membre influente de la communauté Agouda.
Et ensuite, une civilisation qu'ils avaient pu acquérir au Brésil. Et c'était de bons travailleurs qu'il fallait aider sans tenir compte de leur passé. Et c'est des gens dignes. Ils sont revenus avec une certaine éducation, une distinction qui était louable. Et puis, surtout, une formation. Une formation en ce sens qu'on ne pouvait plus les prendre comme des anciennes esclaves, mais comme des gens qui ont évolué énormément. Et c'est ainsi que, dans la famille de Souza, on les a aidés à acquérir des terres, évidemment à acquérir des terres avec l'intervention de cette famille, de ma famille de Souza, auprès du roi d'alors d'Abomey.
Il y a eu comme une sorte d'amnésie.
Jérôme Carlos, journaliste.
Des êtres inférieurs, quand ils étaient à leur point de chute, quand ils ont été enlevés d'ici, ils étaient des êtres, ils n'étaient même pas des êtres. C'était des choses, c'était des objets. Mais ils ont acquis un statut d'être à partir de l'instant où ils ont été libérés. Mais être libéré a signifié pour beaucoup avoir un nouveau statut d'homme, d'être supérieur, égal même par ailleurs à celui de l'ancien négrier. Donc il n'y avait pas tellement de peine à passer de l'ancien statut à un nouveau statut.
Tout se passe comme si l'esclavage était le point de départ d'une nouvelle vie.
Là où les Afro-Brésiliens étaient, c'était la ville par excellence.
Luc Nyakadja, architecte béninois.
Il y a des écrits qui montrent par exemple à Ouida, des visiteurs, les premiers pères missionnaires, qui disaient que le quartier afro-brésilien était le quartier le plus évolué de la ville de Ouida. Et pourtant, il y avait aussi un quartier occupé par les comptoirs et donc par les factories, comme on disait à l'époque. Mais c'était le quartier le plus évolué. Et on l'appelait à Ouida là où le feu ne va pas. Zomaï, là où le feu ne va pas. Il faut savoir que dans la constitution des villes précoloniales, il a été bien établi que le feu était la principale menace des villes précoloniales. C'était construit en matériaux qui étaient hautement inflammables. Et comme le mode de combustion, de préparation aussi, était par le feu, et il y a même eu une année où Ouida a été détruit aux deux tiers, selon l'histoire. Simplement, c'était au début de l'année, donc pendant l'Harmattan, et les vents secs ont permis cela. Donc, ce quartier-là, Zomaï, a résisté au feu, parce que les constructions étaient en matériaux pérennes, il y avait de larges voies, ainsi de suite.
En réalité, le mode de vie des Agoudas était bien loin de celui des autochtones, notamment leur architecture et l'organisation de leur environnement.
C'est que les Agoudas,
Alexis Adande, professeur d'archéologie à la retraite,
ont un style d'organisation de leur espace, de leur concession assez particulier. Quand vous rentrez, en principe, vous rentrez par une porte de type assez monumental d'abord. C'est bien caractéristique. Puis ensuite, le premier élément que vous trouvez avant d'atteindre la villa ou la maison à étage, comme ils disent « sobrado », c'est le jardin d'agrément, avec les fleurs, tout ce qu'il y a comme élément d'agrément, vraiment. Et à côté ou derrière la maison, vous avez donc le potager et le jardin des simples, et vous avez bien sûr le verger, avec tout ce que cela comporte.
Les pièces sont en enfilade, parfois on a des coursives, mais...
Luc Nyakadja, ancien ministre béninois.
Souvent, c'est des pièces qui sont en enfilade. On a une entrée. Il y a un portail souvent qui se fait voir, qui est majestueux. Et parfois, on a la date de construction. On a le nom du propriétaire. On a parfois son emblème, ses armoiries. Toutes choses qu'on ne retrouve pas exactement dans l'architecture portugaise.
Au Bénin,
Alexis Adande, professeur d'archéologie à la retraite.
Les Agoudas sont reconnus comme très attachés à tout ce qui est fleurs. Et puis il y a tout un héritage d'arbres fruitiers qui nous viennent tout droit des Amérindiens, donc du Brésil ou de Guyane ou d'Amérique du Sud, que l'on retrouve dans ces jardins-là. Sapotis, corossol, etc., etc.
En réalité, les Agoudas vivent dans un cadre qui est vraiment le leur. Autre particularité dans le mode de vie des Agouda.
Ils ne mangeaient pas ce que nous autres mangeaient.
Professeur Noureni Tidjani Serpos, ancien président du conseil exécutif de l'UNESCO.
C'était du feijoada, c'était des plats brésiliens. Et c'était considéré comme un luxe de dormir sur un lit, le akamala. Comme il l'appelait.
Il faut se souvenir que les anciens esclaves avaient différentes origines ethniques. Le principal élément qui les unissait était la mémoire de l'esclavage, ce qu'ils ont enduré et ce qu'ils ont adopté comme nouveau mode de vie. Ainsi, la culture acquise au Brésil prend la relève. La langue portugaise et la religion catholique ou musulmane sont empruntées pour composer une nouvelle identité collective. Ils portaient aussi des patronymes de blancs et avaient comme modèle leur culture brésilienne acquise pendant leur captivité. Ils s'habillent comme des Européens, portent des chaussures et des costumes trois pièces, avec nœuds papillons. Théophile Gomes, président de la cellule communautaire des Agouda de Huida.
C'était très rigoureux. Moi, encore, je ne suis pas si vieux, 82 ans, mais encore à 15 ans, je me tenais debout à côté de la table de mon père quand il mangeait, les bras croisés, à le suivre, à suivre son regard. Son regard à droite voulait dire qu'il faut me donner de l'eau à boire, qui se trouvait dans une gargoulette, un récipient en argile couvert d'une enveloppe de feutre qui rafraîchissait. Quand il regarde à gauche, c'est donner l'assiette pour mettre les restes sur la dent, ainsi de suite. Donc, on vous envoie en commission, on vous donne un délai. Si vous ne respectez pas les 10 minutes qu'on vous donne, arrivé à la maison, vous êtes puni. La rigueur est que même marié dans la maison familiale ici, si vous êtes en faute, on vous passe à la salle de punition et on vous donne des coups de planche, de parmatoire, comme on le dit. Parmatorio.
Et ils sont revenus maintenant, ils disent.
Professeur Noureni Tidjani Serpos, ancien haut fonctionnaire béninois.
Vous allez nous servir, nous allons acheter les plantations. Parce que avant, la terre ne se vendait pas. Mais avec eux, ils ont pris toutes les habitudes. Nous allons acheter les terres et vous allez travailler dessus. Et là, les Agoudas étaient arrivés.
Partis comme esclaves, c'est presque un maître qu'ils reviennent. Certains sont devenus riches, la majorité a développé des métiers absolument nécessaires et très recherchés tels que la maçonnerie, la menuiserie, mais également l'agriculture. Avec le déclin du commerce des esclaves, ils vont développer l'activité de la production des biens.
C'était principalement à Ouida.
Francisca de Medeiros Patterson, ancienne femme politique béninoise et membre de la communauté à Ouida.
Donc il y avait des terres vierges qu'ils ont pu acquérir, ils ont fait des plantations, des palmeraies.
Ils acquièrent des esclaves à leur tour pour travailler dans leurs vastes plantations.
Ceux-là qui sont revenus, ils n'ont pas fait du commerce des esclaves en tant que tel, puisqu'avec l'abolition, les mers étaient très surveillées. Il y avait des bateaux qui ont été arraisonnés pour avoir embarqué après l'abolition de l'esclavage. Donc ceux-là prenaient des esclaves puisqu'on n'avait pas la possibilité d'avoir des travailleurs comme maintenant. Mais ils prenaient des esclaves pour travailler dans leur domaine agricole et faire du commerce avec eux. Donc je ne peux pas affirmer qu'il y a eu l'esclavage vers les Amériques, je ne peux pas vous affirmer cela.
Avec les Agouda, l'agriculture béninoise va connaître une vraie révolution.
D'abord, le palmier à huile, c'est ce qui l'a amené.
Karim Urbain da Silva, président du conseil des sages de la ville de Porto Novo.
C'est avec le palmier à huile, le maïs, le manioc, que reste-t-il ? Presque tout ce qui constitue aujourd'hui nos machines de base.
C'est pour ça que nous sommes devenus les premiers producteurs d'huile de palme.
Francisca de Medeiros Patterson.
Sur la côte d'Afrique.
Le palmier à huile a permis...
Luc Nyakadja, architecte, ancien ministre du Bénin.
Aux Agouda de faire cette, cette mutation-là en douceur.
En réalité, les Agouda vont fortement influencer à la fois l'économie, mais également introduire de nouvelles habitudes alimentaires, mais aussi des produits ramenés du Brésil qui rentrent dans l'alimentation à la fois des autochtones, mais également des peuples de toute la sous-région.
Il y a Feixuada.
Professeur Aminu Taufiki, ancien vice-recteur de l'Université nationale d'Abomey-Calavi, au Bénin.
Qui est une sorte de sauce avec les tripes et autres viscères des moutons. Concada, par exemple, là, mais il y a plusieurs sortes. C'est des grains de arachide que l'on mélange avec du sucre fondu et on fait des boules.
La cuisine brésilienne, c'est une tabaya.
Luis Ivaldo Villafan Gomes Santos, ambassadeur du Brésil au Bénin.
On mangerait des plats qui sont venus d'ici, le cozido et autres plats qui sont venus de la cuisine brésilienne.
Un élément que nous considérons comme un élément de notre vie, hein, le gari.
Alexis Adande, professeur d'histoire à la retraite.
On appelle farinha au Brésil. Bon, ça vient du Brésil, puisque ce sont les Amérindiens qui ont domestiqué le manioc, ou cassave, comme on dit aux Antilles.
Ils avaient apporté tous les fruits que nous utilisons aujourd'hui.
Francisca de Medeiros Patterson, membre de la communauté Agouda.
A commencé par les bananes, les oranges. Donc, la canne à sucre, qui est juste à semer ici. Et puis, pommes, cajou, anacarde, tout ça existait avant l'avènement des Français. Et tout ce monde-là, ils plantaient des plantations. La route qui va de Sémé au Nigeria aujourd'hui est jonchée de palmeraies, est jonchée de cocoteraies. Tout ça est dû à l'œuvre des Afro-Brésiliens. Sans compter que dans chaque village, il y avait les prêtres qui, de leur côté aussi, donnaient l'éducation religieuse. Avant la conquête du Dahomey.
Certains métiers tels le cordonnier, le barbier, le menuisier ébéniste, le tailleur, le forgeron, sont introduits au Bénin par cette communauté qui domine, qui est de plus en plus riche. On va aussi voir apparaître les pâtissiers qui sont en majorité des femmes et les tailleurs.
Je fais dos à ma chambre.
Théophile Gomes, membre de la communauté Agouda.
Vous voyez le style, ce sont les Portugais qui ont initié les maçons, qui ont initié des menuisiers pour faire les meubles qui sont chez nous.
Évidemment, l'un des apports les plus visibles est l'architecture dite afro-brésilienne. En réalité, les Agouda, ce revenu de l'esclavage, vont fortement influencer à la fois l'économie, mais également l'architecture et même l'organisation de la société et de l'environnement politique de toute la sous-région, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Agouda du Bénin. Face à la colonisation, ils vont jouer un rôle singulier. Que sont-ils donc devenus au fil des décennies? Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Mais évidemment, en attendant, vous pouvez réécouter ces émissions sur le site de RFI ou encore sur celui d'archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pourrez d'ailleurs ainsi réécouter toutes les émissions d'Archives d'Afrique. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook comme vous le faites régulièrement. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite des Archives d'Afrique. Restez à l'écoute des programmes de RFI. À très vite.